7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, pour se parler chaque jour du nord au sud. Aujourd'hui, peut-on encore être heureux au travail? C'est vrai qu'avec la crise économique, la concurrence internationale, l'accélération des rythmes, la précarité des contrats, la question a du sens. Sachant que l'on passe en moyenne plus de 1760 heures au travail sur une année, nous en discutons avec nos invités, Marlène Schiappa, écrivain, blogueuse, élue locale. Bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
Votre dernier livre, J'arrête de m'épuiser. Est-ce que j'ai tout dit pour vous présenter ?
Je crois que c'était complet, oui.
Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé le bonheur au travail, mais en tout cas, vous avez créé un tout petit peu de stress dans l'équipe de l'émission parce que vous avez raté votre train ce matin et que du coup, donc, on n'a pas la chance de vous avoir en studio avec nous. Mais en tout cas, vous êtes bien au téléphone. Également en ligne avec nous, Xavier Cambi, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes consultant, vous vivez en Suisse et vous avez publié 48 clés pour un management durable. Et nous serons également avec Laurence Vanet qui nous rejoindra en studio tout à l'heure. C'est une ex-DRH belge. Et elle a été d'ailleurs élue DRH de l'année en 2012 en Belgique. Et elle a depuis fondé une société de conseil spécialisée en, devinez quoi, bonheur au travail. Et vous les voisins, racontez-nous un peu ce que vous vivez sur votre lieu de travail. Êtes-vous heureux? Et sinon, quels sont les freins à votre épanouissement? Quelles sont aussi selon vous les solutions pour être heureux au travail? 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous tout de suite, n'attendez pas la fin de l'émission. Je vous lis quelques messages sur les réseaux sociaux que vous pouvez bien sûr commenter, Marlène Schiappa et Xavier Cambi. Moussa qui est à Dakar nous dit que la seule et unique chose qui vous rend heureux au travail, c'est d'avoir de bons collègues. Au moment même où je vous écris, dit Moussa, j'ai des collègues qui me font rire et du coup j'oublie même les problèmes rencontrés chez moi. Oui, ça revient souvent dans les témoignages d'ailleurs, les collègues, Marlène Schiappa.
Oui, complètement. L'environnement au travail, c'est quelque chose de très important et on le voit, ça peut changer du tout au tout entre le collègue pénible, toxique, qui part en nous laissant faire son travail, qui prend ses repas odorants en public, qui passe ses coups de fil très fort en parlant fort à côté de nous, et le collègue sympa, bienveillant, rigolo, qui va nous dépanner, ça change complètement.
Mais en même temps, c'est parfois quand même aussi un peu le hasard.
Ah ben on choisit pas vraiment, mais on peut aussi éduquer un peu ses collègues. Ah. On en parle dans J'arrête de m'épuiser. On est aussi parfois, on crée une ambiance à deux, une relation c'est deux personnes. Il n'y a pas qu'une seule personne qui est en cause. Donc parfois on peut aussi s'interroger soi-même quand on a un collègue qui ne respecte pas les règles de savoir-vivre. On peut aussi s'interroger sur nous, qu'est-ce qu'on met en place comme relation avec ce collègue.
Donc ça n'est pas une fatalité d'avoir des collègues insupportables, Xavier Cambi.
Mais non.
Non, au contraire, on a de nombreux exemples, même dans une entreprise, dans un département qu'on pourrait qualifier de toxique parce que de mauvaises habitudes ont été prises. On voit des seuils de résilience autour d'une personne, autour d'un manager, ça peut être une assistante, simplement parce qu'elle diffuse autour d'elle et elle veille quotidiennement à favoriser le bien-être au travail. La première dimension du bien-être, on l'a dit, elle est éminemment relationnelle. Comment je peux structurer mes relations de telle sorte que voilà, je ne sois pas toxique sans le vouloir moi-même, parce que on sait qu'hélas, les gens qui sont toxiques sont souvent de très bonne volonté, avec les meilleures des bonnes intentions, mais ils manifestent quand même une forme d'agacement à l'intérieur d'eux-mêmes, voire de colère, voire, ça peut aller beaucoup plus loin, qui finit par polluer tout l'environnement. Alors il y a des espèces de bienfaiteurs de l'humanité, et on les trouve dans tous les milieux, des gens qui arrivent à valoriser les autres, à se valoriser eux-mêmes dans une ambiance harmonieuse. Ça existe, c'est possible.
Et on va voir comment créer ça justement dans son environnement de travail. Je vous lis un autre message posté par une voisine, Ouran Jamena au Tchad. Si je suis heureuse à mon travail et que je ne suis pas prête de le quitter, c'est grâce à mes adorables amis. Baharadine est à Tunis, lui. Le travail même est source de bonheur. Si je ne fais rien, je stresse. Alors que si je travaille, je suis heureux. Je me sens à l'aise, surtout quand il est payé, précise-t-il. Moussa Anjamena, je travaille dans un studio de photos. Alors lui, c'est plutôt la galère. Ce n'est pas facile du tout. Je viens au travail à 8h, je rentre à 16h. Parfois, je n'arrive pas à manger de la journée tellement je suis occupée par les clients. Entre l'activité et la chaleur, Anjamena, je me sens étouffée, malheureux. Une fois rentrée chez moi, le soir, je me sens comme battue. Ou encore Toed qui est à Cotonou, au Bénin. Au travail, je subis stress, injustice, humiliation, intimidation et certainement pas un épanouissement. épanouissement. En plus, dans ces conditions, on désapprend forcément. Je n'imagine pas une pire manière d'aller gagner sa vie. Alors, on le voit bien, tout de même des histoires, des témoignages très contrastés. On attend maintenant vos réactions de vive voix. Comment être heureux au travail? Appelez-nous aussi si vous êtes bien sûr patron. 33 1 84 22 71 71. Reportage maintenant, plongé dans un autre monde, je dirais. La libéralisation, c'est comme ça que les salariés de Chronoflex appellent le moment où leur entreprise a basculé. C'est une entreprise française, leader en France du dépannage de flexibles hydrauliques. Chronoflex est touché de plein fouet par la crise en 2009. Le plan social et les licenciements semblent alors inéluctables. Alexandre Gérard, le patron, terrifié par cette issue, cherche désespérément une solution pour sauver son entreprise. À l'occasion d'une conférence, il entend parler de Jean-François Zobrist, qui est patron de Favi, une fonderie qui se situe près d'Amiens, première entreprise française libérée, puisque c'est le mot. Et séduit par le concept, eh bien, Alexandre Gérard, le 7 janvier 2012, saute le pas. Alice Milot s'est rendue dans la banlieue de Nantes, au siège de Chronoflex, pour rencontrer des salariés libérés et heureux. Ouvrez grand vos oreilles, les voisins.
Chronoflex, Sandrine, bonjour. Merci d'avoir patienté. Alors, mon technicien peut être là d'ici 20 minutes. C'est moi, bonne journée, au revoir.
Alors ici, on se trouve chez nous, on appelle ça l'espace vert en fait. Donc la centrale d'appel. On a cassé tous les murs pour pouvoir simplifier la communication et le contact. Tout ce qui a été mis en place ici, c'est nous qui l'avons décidé. C'est pas la direction. Le 7 janvier 2012, on a fait un saut en parachute.
C'est comme ça que vous l'appelez, ce
oui,
moment-là?
Tout à fait. Ce moment-là est appelé le saut en parachute. On est parti sur un mode libéré. On a enlevé tous les systèmes de hiérarchie et on a écrasé la pyramide. Avant le saut en parachute, il y avait eu quelques changements. On avait enlevé toutes les notions de pouvoir. Alexandre n'avait plus de bureau.
Le patron, enfin l'ex-patron.
Voilà, l'ex-patron, tout à fait. Plus de place de parking.
Donc, réservé.
Voilà. Et maintenant, il se gare au fond du parking et il marche comme tout le monde. Toutes les réunions sont ouvertes, donc les bureaux ne sont plus fermés.
N'importe qui peut rentrer sans être invité dans une réunion.
C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde est au courant de tout. Tous les chiffres sont communiqués. Et en fait, il a donné la main aux équipes pour réfléchir de comment on allait faire. Il n'a pas dit ce qu'il allait faire, justement. Il nous a dit, allez-y, réfléchissez comment on va pouvoir mettre ça en place. L'année d'après, il est parti pendant un an. Pendant un an, il a fait le tour du monde en laissant les clés de la boutique à tous les salariés. Ça a été un signe fort de se dire, il nous fait confiance. On était tous concernés parce que même nous, au siège, en fait, tous les directeurs de service sont devenus des team leaders pour nous. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la notion de pouvoir sur nous, mais ils sont là pour nous coacher. Ils vérifient plus le travail. Caroline vous l'expliquera très bien. Elle a des exemples concrets. Elle travaille au service RH à la paye. Avant, pour faire des soldes de tout compte, elle avait besoin de la signature de un tel, de un tel, de un tel. Maintenant, elle les signe elle-même. C'est ça, en fait. C'est que maintenant, on a plus ce contrôle. Ils nous font confiance.
On va faire ça. Stéphane, le bon de commande, vous l'avez ou vous le faites? Oui, tu le notais.
Ok, d'accord, je vous dis 20 minutes. Merci, salut.
Bonne journée, messieurs. À bientôt, au revoir.
C'est un dicton africain qui dit seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et ça, on a les démonstrations tous les jours dans l'entreprise que ça se passe comme ça. Alors, je suis Alexandre Gérard. Voilà. Alors, il y a les mandats officiels. Je suis toujours président du groupe et président de Chronoflex, bien sûr. Si on veut transformer son entreprise, il y a une chose qu'il faut d'abord transformer, c'est soi-même. C'est la plus grande des batailles. Je parle du chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que la première chose qu'il va devoir laisser à la porte de son entreprise, c'est son ego. Et vous savez, pour beaucoup de chefs d'entreprise, l'ego, c'est un point important. Voilà. Alors, j'ai travaillé avec des coachs pour lâcher prise, on va dire. Voilà. Moi, j'étais persuadé que si j'étais pas au cœur de la bataille et que je bossais pas 15 heures par jour, il pouvait rien se passer de bien dans l'entreprise. Eh bien, ça m'a permis de me débarrasser de ces croyances, de découvrir une autre personnalité en moi, celle qui pouvait révéler les gens avec qui je travaille. Comme les entraîneurs qui sont sur le banc pendant le match de foot. Et moi, en fait, je suis un petit peu l'entraîneur des entraîneurs. C'est-à-dire qu'il faut pas que je sois dans le stade. Eux, ils prennent la charge émotionnelle de l'activité. Moi, je suis à côté. Et ce qui fait que quand c'est compliqué à l'intérieur, dans le stade, eh bien, moi, ça me permet de temps en temps de ramener un petit peu de sérénité. Voilà. La totalité des décisions business de l'entreprise sont prises par les équipes et de manière collégiale. La première de nos valeurs, c'est la performance par le bonheur. Nous sommes convaincus que l'organisation que nous mettons en place va permettre aux gens d'avoir un niveau de plaisir plus important. Et si les gens sont heureux, la conséquence de ça, c'est qu'il y aura une performance économique qui sera beaucoup plus importante. En tant que client, si vous bossez avec une entreprise dont les gens sont heureux, ça va se voir tout de suite. Et vous allez avoir envie de développer cette relation avec eux. Depuis qu'on a basculé ce système-là, la rentabilité a été multipliée par 4. Dès que vous donnez la possibilité aux équipiers de se réengager dans l'entreprise, et vous voyez que très vite, eh bien, il y a des gens qui vont s'épanouir et qui vont prendre du plaisir à créer, à développer, à participer à tout un tas de choses.
Pourquoi tout le monde ne fait pas ça si ça marche si bien?
C'est sa boîte, c'est son argent, c'est sa vie. Et d'être capable de lâcher ça en disant bah, « finalement, je vous fais confiance, c'est vous qui allez tout décider collectivement et plus moi eh », c'est renoncer à beaucoup de choses. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à ça aujourd'hui.
Donc en fait, ça, c'est la salle de pause actuelle. Donc en fait, on a une salle de ping-pong, il y a un punching ball aussi. Enfin,
un punching ball.
Oui, un sac de boxe, là.
Pour taper dedans.
Ouais, voilà, c'est un truc qui nous agace. Ben, on vient là, on tape dedans, et puis ça fait du bien, et puis on remonte. Puis voilà.
Il y a des gens qui ont eu du mal à adhérer à ce système, à ce fonctionnement-là.
Il y en a eu, mais qui sont partis d'eux-mêmes. Qui sont partis d'eux-mêmes parce qu'ils ne se sentaient pas bien. Peut-être de ne plus avoir de cadre et ne plus avoir de responsable sur lequel s'appuyer.
Ça les angoissait?
Il y a des personnes qui ont besoin de ça. On était bien d'avoir un responsable au-dessus de nous et quand il y avait un problème, de dire « bah c'est pas moi, allez le voir ».
Et vous, vous êtes heureuse au travail?
J'ai changé de poste depuis qu'on a fait le saut en parachute, mais j'étais au service recouvrement et j'étais un petit peu dans un cycle routinier. J'avais fait le tour de mon travail.
Vous vous ennuyez?
C'est ça. Mais c'est pas pour autant que je faisais pas mon travail, mais voilà, j'avais plus de plaisir à faire ce que je faisais. Et le fait que les groupes de travail ont été ouverts, eh ben, j'ai pu m'impliquer dans les différents groupes de travail. Donc, c'est moi qui ai pris ce rôle d'organiser les, comme on appelle ça, les learning expeditions. On va voir comment ça se passe dans les autres boutiques et eux-mêmes viennent ici. Donc, en fait, maintenant, je gère les visites à l'externe comme à l'interne. En fait, ça m'a apporté une bouffée d'air. Ça m'a permis de revenir booster dans mon travail au quotidien.
Vous étiez plus efficace dans votre travail en étant moins présente?
Tout à fait. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Donc maintenant, non, je m'ennuie plus du tout. J'ai même plus le temps de m'ennuyer.
Marlène Schiappa, vous connaissiez ce concept de libéralisation où on a donc tout fait exploser, les hiérarchies, les discussions, les décisions business qui sont prises en discussion collégiale?
Oui, et il y a quelque chose qui a été dit qui me semble très intéressant. À un moment, une des personnes interrogées a dit « c'est à chacun de trouver le modèle qui lui plaît » ou quelque chose comme ça. Et ça me semble être le point de départ de la prévention de l'épuisement et donc du bonheur au travail. C'est finalement de trouver le mode de fonctionnement qui nous plaît à soi. Donc ça nécessite de s'interroger, de faire un peu d'introspection aussi, de se demander dans quel modèle on a envie d'évoluer. Et effectivement, pour certaines personnes, ça peut être un modèle comme ça, avec moins de contraintes qui pèsent. Et la conclusion de dire « je suis plus efficace en étant moins présente » me semble aussi très importante. Parce qu'on est en France et dans beaucoup de pays occidentaux dans une espèce de culture du présentéisme qui est assez insupportable et qui finalement n'a d'ailleurs pas d'efficacité réellement prouvée. Donc c'est intéressant de se remettre en question et de remettre en question des vieux schémas parfois un peu archaïques avec ces injonctions de présentéisme à outrance.
Le premier réflexe quand on entend ce genre d'histoire, de reportage, c'est évidemment la méfiance. Est-ce que vraiment ça peut fonctionner sur le plan business? Est-ce qu'on est tous contaminés par des schémas préétablis dans le fond, Marlène Schiappa?
Oui, complètement, parce qu'on grandit avec, on étudie avec. La plupart des grands patrons des grandes entreprises actuellement ont fait plus ou moins les mêmes écoles, ont suivi un peu les mêmes parcours. Il y a un manque de mixité, un manque de mixité homme-femme, mais aussi un manque de diversité dans les parcours. Donc effectivement, on a tendance à être méfiant envers ce qu'on ne connaît pas, à le craindre un petit peu. Et effectivement, il y a cette espèce de méfiance qui s'installe, alors que finalement, des choses tout à fait nouvelles comme ça, mais je pense aussi au séminaire avec le yoga du rire en entreprise, avec beaucoup de nouvelles méthodes qui peuvent faire en sorte qu'on se remet en question et que finalement on s'aperçoit que l'entreprise n'est pas moins performante. Parce que si elle était moins performante, ils auraient arrêté cette expérience très rapidement et ça n'a pas l'air d'être le cas dans ce qui s'apporte comme témoignage.
Xavier Cambi, comment expliquer qu'aujourd'hui, bon, vous avez tous écrit des livres respectivement sur le sujet, autour en tout cas du bien-être au travail, comment expliquer que ça soit devenu un sujet si central?
Eh bien, parce que enfin, je pense qu'il y a d'abord une pandémie de souffrance au travail. Nous travaillons beaucoup au Canada et par exemple, dans les entreprises privées comme dans les administrations, 80% des managers ou des responsables sont en état de détresse psychique ou psychologique. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à décider tranquillement et à assumer les conséquences d'une décision, et bien souvent, ils se retranchent derrière la non-décision. Alors, il y a plein de choses très intéressantes dans le reportage. Alors, je connais bien la mise en œuvre de la libération des énergies au sein des entreprises. Je communique régulièrement avec Laurent Ledoux, qui l'a fait avec un talent immense pour une administration belge. En Suisse, nous mettons ça aussi en œuvre de plus en plus, et beaucoup d'autres sociétés françaises, même qui n'ont pas été citées dans votre reportage, sont dans cette logique de dire, la libéralisation, en fin de compte, c'est quoi ? Bien, c'est donner la responsabilité à la personne pleine et entière de la valeur ajoutée qu'elle peut apporter dans son travail. Et alors là, on voit des phénomènes, on l'a mesuré avec un professeur d'université, de l'université de Fribourg, on peut quasiment décupler la performance sans consommer aucune énergie psychique, sans fatiguer, sans prendre de risque de burn-out. Et alors, notre explication à nous, c'est qu'il y a à la base, dans la structure humaine, eh bien, travailler n'est pas nécessairement une punition divine, comme disent les judéo-chrétiens. Ce n'est pas un enfermement, c'est au contraire le moment de développement personnel potentiel de tous ses talents. C'est le moment où je peux
Ça concerne tout le monde, évidemment.
Alors,
on va essayer de donner des pistes d'action pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont plus ou moins heureux au travail. Je voudrais qu'on accueille un premier voisin qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Félix est en ligne avec nous de Bamako. Bonjour Félix.
Bonjour Daniel.
Félix, vous travaillez à Bamako, je crois que vous êtes camerounais, vous êtes responsable, vous faites de la logistique, c'est bien ça, vous êtes donc dans l'économie, dans une entreprise formelle.
Tout à fait.
Nous vous écoutons.
Logistique, transit et transport.
D'accord, alors qu'est-ce que vous vivez comme situation, vous ?
Oui, moi en fait, je voulais dire que la notion de bonheur au travail, pour moi, est toute relative, Et je pense qu'elle dépend, entre autres de la formation que le travailleur a reçue et de la culture de l'environnement du travail dans lequel il exerce. Je dis ça en prenant mon cas personnel et de mon constat propre. Au Mali, par exemple, au Mali où je travaille, et en Afrique, je vais dire d'une manière générale, l'ambiance au travail, je veux dire, l'environnement du travail est très convivial et très très familier. Très très familier. Cela suppose que le matin quand on arrive au bureau, on fait le tour des bureaux un à un pour dire bonjour aux collègues, prendre des nouvelles de la nuit, comment ils ont passé la nuit, comment va la famille, et voilà, tous ces détails-là. Et au Mali, en l'occurrence, cela a cours et c'est presque une obligation. C'est presque une obligation. Et moi, quand je commençais à exercer au Mali, parce que moi, ma formation de base a été, mon premier stage a été dans une entreprise internationale dont j'étais rêvement. Et j'ai toujours travaillé dans des boîtes européennes, en fait, où, il n'y a pas trop, on n'a pas beaucoup de temps aux familiarités. On passe à l'action, c'est process, c'est efficacité, c'est rentabilité optimale. Et quand on dit au travail, c'est pour travail et non pour autre chose. Quand j'ai commencé à travailler au Mali, j'ai observé cela et je dois avouer que, de mon avis propre, ça me rendait pas tellement heureux parce que j'avais l'impression qu'au travail, en fait, on t'en donnait plus à des distractions tout autres, mais on t'en donnait plus à tout autre.
C'est-à-dire qu'en fait, Félix, vous ne pourriez pas être heureux dans ce type de culture parce que vous auriez ou vous avez le sentiment que c'est du temps perdu, alors que bon, c'est de la relation humaine, peu importe le jugement qu'on porte là-dessus. Mais ce qui montre bien que votre démonstration montre bien qu'effectivement, le sentiment de bonheur au travail est assez subjectif et assez relatif en fonction des perceptions, des cultures des uns et des autres. C'est ça, en fait.
C'est exactement ça, Emmanuel. C'est exactement cela. Et voilà. Et je suppose, je voulais dire par là que moi, en l'occurrence, bien qu'étant africain, dans une entreprise africo-africaine, je veux dire, à limite malio-malienne, avec tous ces détails-là, je ne me sentirais pas heureux.
Alors, ça va sûrement susciter des réactions au standard. Merci Félix de ce témoignage. On va aussi laisser réagir nos invités, mais ça sera juste après le flash. Vous restez avec nous, Marlène Schiappa, Xavier Cambi. Le bonheur au travail, c'est évidemment agir d'abord sur ce qui dépend de nous, à défaut de pouvoir changer toute une réalité économique. En tout cas, vous nous appelez. Peut-on encore être heureux au travail? 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes sur RFI. juste après le flash. Et appelez-nous bien sûr également si vous êtes un manager et si vous vous interrogez sur ces questions. À tout de suite.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, peut-on encore être heureux au travail? Si cette question, vous vous la posez souvent, ou si vous avez trouvé des solutions pour le bonheur au travail, surtout appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. On en discute bien sûr avec nos invités. Marlène Schiappa qui a publié J'arrête de m'épuiser. Xavier Cambi qui est consultant, coach et qui a publié 48 clés pour un management durable. Et Laurence Vanet qui vient d'arriver dans le studio. Vous êtes Laurence Vanet, bonjour d'abord.
Bonjour.
Vous êtes une ex-DRH belge. Vous avez été élue en 2012 DRH de l'année. Et d'ailleurs, à l'époque, je crois que vous aviez fait imprimer sur vos cartes de visite Chief Happiness Officer, c'est-à-dire directrice en chef du bonheur.
Tout à fait.
C'était une provocation.
C'était vraiment une affirmation. C'était plus un cri qui venait de très loin de l'intérieur, je vais dire. Parce que normalement, mon titre officiel dans l'administration belge, c'était directrice du service d'encadrement personnel et organisé du service public fédéral de la sécurité sociale.
Nettement moins sexy, effectivement.
Exactement.
Vous avez complètement réorganisé d'ailleurs le travail à la sécurité sociale belge. Vous nous direz comment, à quel type de problème vous étiez confronté, à quel type de souffrance aussi de la part des salariés. Et aujourd'hui, vous avez fondé une société spécialiste en bonheur au travail qui s'appelle Happy Formance et vous publiez Happy RH. Nous accueillons bien évidemment des voisins et des voisines. Vous réagissez, vous nous dites les problèmes auxquels vous êtes confrontés, mais aussi les solutions que vous avez mis en place vous-même pour être heureux au travail, au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un voisin qui nous appelle d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Yann.
Oui, bonjour Emmanuel et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Yann, vous avez 38 ans, pendant 10 ans vous avez été heureux, très heureux en entreprise, et puis vous avez changé de boîte. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, comme vous l'avez dit, effectivement, j'ai passé 10 ans dans une entreprise multinationale où, malgré que je n'étais pas vraiment bien payé, mais j'étais heureux au travail parce qu'il y avait la confiance de mon chef. Mmh. Et depuis 2 ans, j'ai changé de travail. Et là, bien que j'aime ce que je fais présentement, j'ai eu un nouveau chef depuis environ 1 an qui n'a pas la compétence parce qu'il n'a vraiment jamais exercé dans le domaine. C'est le secteur électrique.
Ouais.
Il n'a vraiment pas l'expérience qu'il faut, donc il ne connaît pas grand-chose en termes de travaux, en termes de certaines situations. Donc du coup, il bloque toutes les décisions. Moi, je suis responsable d'affaires, mais j'ai tendance à être traité aujourd'hui comme un ouvrier, souvent à me retrouver à prendre le tournevis pour souvent faire certaines tâches qui sont dévouées aux ouvriers parce que j'ai pas le pouvoir de décision, je peux pas décider de ce qu'il faut faire, et après on est en retard sur les choses et les clients nous engueulent. Et puis, franchement, aujourd'hui, moi, je suis pas heureux au travail. Si c'était pas parce que peut-être aujourd'hui, je vais dire, j'ai un prêt à la banque que je dois rembourser, ben je serais déjà parti.
Ouais.
Ouais.
Vous vous sentez dans une impasse là finalement. Est-ce que vous avez essayé de parler avec votre supérieur?
Oui, on fait des entretiens annuels, donc j'ai essayé d'évoquer la question et tout, mais bon voilà, il essaie de surrouler la question et de dire oui, il y a pas de problème, mais je remarque que c'est la même chose parce que chaque fois qu'on soumet des solutions pour avancer, pour faire bouger le travail et tout, il va vouloir revenir en arrière pour contrôler des choses que moi-même je ne contrôle pas parce que je laisse à des personnes qui sont en dessous de moi pour les gérer, mais il n'a pas le temps de le faire, il va vouloir les regarder, et puis après on se rend compte que bon, on a accusé d'importants retards dans le travail. Et j'avoue que franchement, moi, ça me met beaucoup mal à l'aise parce que pour finir, je me réveille difficilement pour venir au travail. Ouais. C'est compliqué. Ouais. Ouais.
On sent que vous êtes un salarié assez impliqué, hein, bien évidemment, notamment sur la qualité du travail. Laurence Vanet, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Yann ?
Bonjour Yann.
Bonjour,
la première chose que je vous dirais, c'est rester convaincu d'être dans le bon chemin, en tout cas. C'est vous qui avez raison. Quand je vous entends parler de délégation, du fait que vous fassiez vous-même confiance aux personnes qui travaillaient pour vous, c'est vous qui avez raison. Et donc, un petit truc peut-être extrêmement pratique à faire. Vous prenez une feuille de papier, vous dessinez trois cercles qui vont s'imbriquer. Et donc, il y a un cercle qui va reprendre tout ce que vous faites bien. Tous les éléments où vous avez une valeur ajoutée, où vous avez vraiment des qualités qui vous sont reconnues. Un autre cercle qui reprend ce que vous aimez faire. Donc, pouvoir déléguer, pouvoir travailler en confiance, pouvoir expliquer les choses. Et le troisième cercle sera ce qui est utile à l'organisation. Et en fait, l'intersection de ces trois cercles, c'est vraiment là où votre talent, où votre passion peut s'exprimer. Et donc, c'est là où vous êtes d'office le plus performant. Je vous conseille de faire cet exercice et de le montrer à votre supérieur hiérarchique, parce que ce que lui attend, c'est de la performance. Et on sait que pour être performant, bah oui, il faut aussi être heureux au travail. Et donc, de voir avec lui s'il vous retrouve, s'il a la même impression que vous, que de votre analyse dans chacun de ces cercles, et peut-être lui proposer de lui aussi faire cet exercice. Si ça continue à coincer, je serai vous, j'hésite pas à monter à nouveau au niveau supérieur pour essayer d'avoir une discussion à trois.
Est-ce que toutes ces discussions, ça peut se faire au moment de l'entretien annuel?
Moi, je vous dirais surtout, n'attendez pas un an avant d'avoir ces discussions. C'est tellement loin, les entretiens individuels, annuels, et puis il y a tellement de choses à discuter. Faites-le dès que vous en avez l'occasion. Ne vous laissez pas emporter dans cette vague qui peut être très vite, très décourageante.
Avoir un chef incompétent, en même temps, il faut savoir que pour le chef, c'est aussi une situation d'inconfort. Donc, il faut se mettre aussi à sa place et peut-être essayer de l'aider et trouver des solutions.
Exactement. Il faut toujours rester dans la bienveillance plutôt que dans l'attaque, et donc lui proposer de faire le même exercice que vous, où vous vous mettez tout simplement à égalité, puis vous tendez une main. Donc théoriquement, ça ne peut pas se refuser.
Merci beaucoup d'avoir appelé, Yann. On a un autre auditeur qui nous appelle, Scott, qui a 36 ans, qui est à Yaoundé au Cameroun. Bonjour Scott.
Bonjour Manuel.
Scott, je crois que vous vivez aussi une situation difficile sur votre lieu de travail.
Oui, effectivement, je suis malheureux dans mon travail. Je viens un peu, c'est à peu près comme le discours de tout à l'heure. Donc, moi, j'ai un chef, un manager qui vient juste d'arriver, ça fait un an. Et puis, moi, mon travail que je fais, il trouve que c'est débile, il a toujours des choses à me redire. Et puis après, même pour me récompenser, j'ai jamais un mot gentil après. Il faut voir ce que je fais, il contrôle ce que je fais quand je sais. Parce que si vous voulez, moi je travaille comme commercial, donc c'est-à-dire que commercial en même temps de l'administration, quoi. Parce que j'ai cumulé deux postes.
Oui, mais commercial, il faut avoir confiance en soi pour être un bon commercial. Et votre chef ne vous y aide pas finalement?
Non, du tout.
Laurence Vanet, est-ce qu'on peut conseiller quelque chose à Scott? Parce que je crois que vous êtes assez nombreux à vous plaindre là de votre hiérarchie. Est-ce que c'est l'essentiel des plaintes qui reviennent d'ailleurs?
C'est pas l'essentiel des plaintes, mais c'est extrêmement important. On a fait une enquête en Belgique pour demander finalement quel était l'impact qu'un responsable pouvait avoir sur le bonheur de ses collaborateurs. Et 84% des répondants ont dit que l'impact était majeur. Donc manifestement, ici, autant ce que Yann que ce que Scott vivent est une réalité pour beaucoup de personnes. Donc, si j'entends bien le besoin ici de Scott, il est plutôt à nouveau au niveau du contrôle. Et c'est vrai que on se retrouve face à beaucoup de chefs, parce que là, on est vraiment presque dans une relation hiérarchique exclusive, donc on parle vraiment de chefs, on ne parle pas de responsable d'équipe, durcissent le contrôle quand eux-mêmes se sentent dans une situation précaire ou que eux-mêmes manquent de confiance en eux. Une façon d'aider cette personne, ce responsable, et donc de céder soi-même, c'est de demander quel est le niveau de reporting qu'il souhaite, à quel rythme, et d'établir vraiment ces codes, ce calendrier, en disant « je m'y emploie », tu auras effectivement les chiffres, le reporting sous telle forme puisque tu le demandes à telle date, mais entre-temps, laisse-moi agir puisque tu as vu que j'apporte également des résultats par ailleurs. Et donc, demander d'être considéré comme l'adulte que nous sommes et non pas comme un enfant qu'il faut surveiller, dont il faut vérifier le moindre des actes. Et peut-être éventuellement sanctionner dès la première fois si jamais on se détache du chemin qui est à suivre.
Alors j'interroge aussi nos consultants qui sont au téléphone. Xavier Cambi, vous exercez à la fois en Suisse, à la fois au Canada. Est-ce que l'exercice du pouvoir est par essence un problème pour le bonheur au travail?
Non, j'exerce aussi en France. Habituellement, on constate les exemples de nos amis, de nos voisins sont hélas de plus en plus généralisés, de plus en plus fréquents. Et il est vrai qu'un positionnement hiérarchique maladroit, très fréquemment, comme l'a souligné Laurence avec exactement, enfin c'est ce que nous partageons, plus un manager ou un responsable est mal à l'aise, moins il a confiance en lui-même, moins il va avoir confiance dans les autres, plus il va être dans le contrôle. Alors, la bonne façon, je pense, d'essayer de rompre cette hiérarchie qui est écrasante, c'est de montrer à quel point, et en effet l'exercice de Laurence est ingénieux, nous en proposons d'autres, mais c'est de dire comment on peut faire pour mettre en avant toute la valeur ajoutée de notre travail, de notre collaboration. Et alors le faire, non pas sur un schéma conflictuel ou pour se valoriser, mais concrètement, dire voilà ce que je fais. Quel est le contrôle que vous voulez exercer? Comment je peux vous aider, monsieur le manager, à me manager? Parce que il dépense une énergie folle pour rien. Et c'est une énergie qui est négative au fond de moi. Et qui m'empêche. J'ai formé beaucoup de commerciaux qui, en effet, parce qu'ils sont sous un contrôle avec un reporting et des objectifs qui sont très très difficiles à accepter en général, eh bien, ils ont peur en allant voir leur client. Et donc, la première chose que ressent le client, ou que ressent le client, c'est la peur du commercial. Et si le commercial a peur, bien l'acte d'achat ne se fera pas.
Ouais. On a le sentiment que vous décrivez une espèce de chaîne de domino, hein, parce que les managers eux-mêmes, d'ailleurs, disent dans l'intimité qu'ils se sentent en souffrance et qu'ils ne sont pas heureux, alors qu'ils devraient l'être, hein, au poste où ils sont. Marlène Schiappa, vous qui avez publié un livre qui s'appelle « J'arrête de m'épuiser », mais qui a aussi travaillé sur la condition des femmes au travail, le ressenti des femmes. Est-ce que vous avez le sentiment que le bonheur au travail est une question qui se pose différemment pour les hommes et pour les femmes dans les entreprises?
Oui, complètement. Il y a une question qui est très importante, c'est celle de la déshumanisation. On avait plusieurs témoignages tout à l'heure. On avait Félix qui nous parlait de managers qui simplement prennent des nouvelles. Bah, simplement prendre des nouvelles, savoir comment se porte quelqu'un, c'est simplement le considérer déjà comme un humain avant de le considérer comme un collaborateur ou comme une force de travail. Et on avait quelqu'un aussi qui nous disait tout à l'heure « je me sens stressée, je ne mange pas ». Et ça, pour moi, c'est vraiment le début de la spirale de l'épuisement. C'est quand on ne mange pas, quand on ne satisfait pas ses propres besoins physiologiques et qu'on se concentre avant tout sur les besoins de l'entreprise ou sur les besoins du manager. Alors, sur la question des hommes et des femmes, effectivement, oui, c'est différent dans la mesure où les femmes ont des contraintes supplémentaires par rapport aux hommes. Statistiquement, on sait qu'en France, elles font 80% des tâches ménagères en moyenne. Dans 76% des familles, elles gèrent seules la vie scolaire en plus de leur vie professionnelle. C'est quelque chose qui est assez compliqué. Mais je pense que c'est également compliqué pour les hommes qui sont soumis aux normes masculines du pouvoir, vous savez, qui ont été édictées par l'Institut Catalyste, c'est-à-dire l'esprit de compétition, le refus de l'émotion, le fameux « un homme qui ne pleure pas ». Et il y a encore des conventions collectives en France qui sont sexistes. Je pense par exemple à la convention collective des activités de publicité, qui dit que les femmes ont droit d'avoir 6 jours d'absence enfant malade dans tous les cas, et les hommes ont droit d'avoir 6 jours d'absence enfant malade à condition qu'ils soient veufs et chargés de famille. Ouais. Donc si vous voulez, l'homme est aussi parfois considéré comme un rapporteur, un pourvoyeur de revenus, et c'est très compliqué également pour les hommes d'assumer parfois peut-être un épuisement, un début de faiblesse, ou en tout cas une remise en question, et de dire qu'ils sont déshumanisés, ne serait-ce que d'avoir ce début de parole, de prendre la parole et de dire qu'ils sont des êtres humains avant toute chose.
Ouais. On voit bien, là, vous citez les conventions collectives, on voit bien qu'il y a aussi un problème de cadre et d'organisation et pas seulement de relations interpersonnelles au jour le jour et au fil de l'eau et au fil des heures. On va en parler du problème des organisations dans un instant, mais je voudrais qu'on accueille Soraya qui a 29 ans, qui est à Lomé au Togo. Bonjour Soraya.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous êtes une voisine un peu déçue parce que vous êtes actuellement enseignante dans ce que vous appelez chez vous les arts ménagers. En fait, vous enseignez la couture, hein, je crois, c'est cela?
Oui,
c'est ça. Oui, dans une école?
Oui, je suis dans une école ménagère. J'enseigne, je donne des cours de couture aux enfants.
Oui.
Et c'est un boulot que j'ai accepté par... malgré moi, disons,
oui.
Parce que j'ai gagné mon pain quotidien,
oui.
J'ai reçu la formation de la haute couture,
oui.
Pour travailler dans une maison de mode et faire des créations parce que j'ai un peu le talent de dessiner, etc.
Oui.
Donc, j'ai été déçue à la fin en choisissant.
Oui.
Parce que j'ai gagné mon pain quotidien.
Votre rêve, c'était donc d'être créatrice de mode et vous vous êtes retrouvée enseignante de couture dans une école. Est-ce que vous, de temps en temps, vous cherchez à transposer vos aspirations, vos rêves qui sont un petit peu contrariés pour le moment, hein, mais peut-être pas pour toute votre vie, à votre emploi actuel? Est-ce que, par exemple, vous essayez de faire de la création avec vos élèves?
Oui, oui, bien sûr, j'essaie de leur montrer quelque chose, mais il y a aussi des petits problèmes que j'ai des élèves qui ne sont pas motivés, qui n'ont pas la volonté. La plupart n'ont pas été, disons, encadrés, ils n'ont pas eu la formation d'orientation, disons. Donc, je suis obligée à par moment de revenir pour les qu'on a dans la couture, de s'intéresser au temps.
Bon, votre histoire n'est pas simple, Soraya, mais votre histoire pose une vraie question fondamentale. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Je suis désolée parce que la ligne est mauvaise. En contrepoint, je voudrais lire le témoignage de Moussa, qui est professeur, au Sénégal, hein, à Kaolack, et qui dit, en tant que prof, rien n'est plus passionnant que le fait d'aider des innocents, d'essayer de les préparer à la vie. C'est un grand plaisir pour moi de voir un élève réussir, occupé de hautes fonctions. On s'en glorifie soi-même. Le salaire n'est qu'un stimulus pour le travailleur, mais le vrai bonheur vient du travail accompli avec beaucoup de passion. Bon, alors, il y aura sûrement des réactions sur le salaire. Si ça n'est qu'un stimulus, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur la question du sens, la question des déceptions par rapport aux rêves, Laurence Vanet, c'est une question qu'on retrouve fréquemment, ça.
Oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure de l'importance de la relation avec son supérieur hiérarchique. Plus important encore est celle du sens, de comprendre le pourquoi de notre métier, le pourquoi de notre rôle dans l'organisation, et d'être également reconnu par rapport à ce pourquoi. Et donc ici, ce dont Soraya manque probablement, c'est un petit peu de retour positif, puisqu'elle voit des étudiants qui ne s'intéressent pas spécialement elle-même à sa propre passion, qui se sentent obligés de venir assister à son cours, et donc elle n'arrive pas à les enthousiasmer, ce qui peut vraiment être effectivement rapidement décourageant. Et donc quand vous avez l'impression de manquer de sens dans votre organisation, alors que vous êtes convaincu de ce que vous apportez, c'est peut-être à nouveau de questionner les personnes avec lesquelles vous interagissez, en expliquant le pourquoi vous vous sentez passionné par cet élément, et demander mais pourquoi eux ne réagissent pas, ou ce qu'il faudrait faire pour justement stimuler à ce moment-là l'enthousiasme aussi des personnes avec lesquelles on travaille.
Alors on dit beaucoup que selon les cultures, il y a des différences d'exigence de sens. On dit beaucoup que les Français, même s'ils ont beaucoup de vacances, sont très productifs, sont très impliqués dans leur travail, ont besoin d'être passionnés par leur travail. C'est moins le cas, en tout cas c'est ce que j'ai lu, notamment dans le monde anglo-saxon, où il y a plus de détachement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Xavier Cambi, ou qui travaillait également en Amérique du Nord?
Alors, je pense que la question du sens est la même, quel que soit le référentiel culturel. C'est un petit peu ce que je fais pour moi-même et ce que j'apporte aux autres, ceux qui m'entourent et ceux que j'aime. J'ai beaucoup aimé le témoignage, j'ai oublié son prénom, ce professeur. Mais il trouve que tout est absolument magnifique dans sa vie parce qu'il a conscience de faire grandir les gens, et donc c'est le sens, c'est le pourquoi de sa vie. À partir de ce moment-là, il mobilise toute son énergie et il est capable d'aller très très loin. Et j'imagine qu'il a interagi aussi avec ses élèves de façon très positive. Alors, les anglo-saxons ont une gestion émotionnelle qui ne leur permet pas de trop parler de leurs émotions ni de leurs passions, mais en fin de compte, ils sont animés quand même par la même question du sens. Avec une croyance qui fait qu'ils peuvent avoir un comportement qu'on appellera de mercenaire, c'est-à-dire le salaire est ma seule motivation et c'est juste un job. Mais en fait, tous ceux qui vont plus loin, tous ceux qui ont un réel leadership, eh bien, ils sont capables de faire résonner au fond d'eux-mêmes et puis d'emporter l'adhésion des autres comme ça, avec la réponse à pourquoi on fait ça.
Sur la question des organisations qui a été soulevée, hein, parce qu'on n'est pas maître de tout son destin et, pour commander son bonheur au travail, Laurence Vanet, qu'est-ce qui est en train de se faire à l'heure actuelle dans les entreprises? Sur quoi travaillent ceux qui décident des organisations, et qui, surtout, qu'est-ce qui crée réellement aujourd'hui du bonheur dans les entreprises? Quelles sont les tendances?
En fait, les tendances sont vraiment multiples parce que chaque organisation est différente, a des marchés différents et des historiques et des contraintes différentes. Par contre, ce que l'on remarque de façon vraiment transversale, voire universelle, mais le mot est peut-être ambitieux, c'est de se dire que chaque organisation est performante, veut être performante et c'est tout à fait légitime, mais qu'il y a très très peu de personnes au sein de ces organisations qui sont motivées par cette performance. Chaque personne est motivée par le fait d'être heureux et ça aussi c'est extrêmement légitime. Et donc, pour pouvoir faire parler le bonheur et la performance, ce que les organisations mettent en place, c'est la liberté. Donner de la liberté à leurs collaborateurs d'aller
piocher. L'initiative, en fait.
Exactement. Mais l'initiative, mais même, c'est aussi créer un cadre organisationnel qui va ouvrir le choix des libertés. Et donc, c'est l'organisation qui décide ou pas d'ouvrir certains volets, le volet du temps, le volet du lieu, le volet des outils, le volet des rôles, le volet parfois du salaire, comme chez Chronoflex, par exemple. L'idée est de dire, en fait, puisque c'est très dur et c'est voire impossible de s'occuper du bonheur de chacun, on va, en tant qu'organisation, donner la liberté à chacun d'aller piocher au sein de cette organisation ce qui contribue à leur bonheur. Et en contrepartie, on va demander à chacun de prendre la responsabilité de ses choix. Et donc ça donne une équation
qu'on retrouve. Et comment on construit ça à plusieurs? Parce que est-ce que ça, le bonheur des uns n'est pas forcément le bonheur des autres? Donc comment
exactement
ça cohabite?
Eh bien justement, c'est par le fait de dire, si je vous donne de la liberté, ce que je vais vous demander en fait, c'est de prendre votre responsabilité, parce que votre liberté va s'arrêter là où la mienne commence. Et donc on va laisser énormément de choix.
Vous pensez à des exemples précis dans des entreprises?
Par exemple, dans ce ministère dans lequel j'ai eu l'occasion de travailler pendant 4 ans,
Sécurité
sociale belge, on a laissé le choix aux personnes de pointer ou pas, donc d'enregistrer leur temps de travail ou pas, mais il y avait des règles différentes qui étaient liées à chacun des deux systèmes. On choisissait un système et on s'inscrivait dans les règles. Le système ne vous convenait pas, vous pouviez revenir sur l'autre système. On a laissé la liberté du lieu, donc vous pouviez travailler de la maison ou travailler dans notre bureau, les bureaux satellites qui sont plus proches de chez vous, plutôt que de chaque fois venir et affronter les embouteillages de Bruxelles. On a laissé la liberté d'outils. Si vous n'aimiez pas le téléphone ou l'ordinateur que l'entreprise mettait à votre disposition, vous pouviez prendre votre propre téléphone. Mais à ce moment-là, on vous demandait aussi de respecter les règles de sécurité. La liberté de rôle, bien sûr, vous êtes payé pour faire une fonction, mais tous les projets d'innovation ou les projets transversaux dans l'organisation étaient libres pour chacun. On pouvait décider soi-même de s'y inscrire ou pas.
Tout ce que vous décrivez, c'est très compliqué à mettre en place en termes d'organisation.
Non, ça demande du courage et de la sincérité.
C'est un menu où il y aurait le double de plat d'un menu normal dans un restaurant. C'est un peu ça l'image, la métaphore qui me vient à l'idée là.
Peut-être, effectivement, c'est une ouverture de choix. Il faut cuisiner beaucoup plus. Par contre, vous avez un tel niveau de bonheur et donc de performance qui augmente que vous pouvez automatiquement ne plus passer du temps à du contrôle inutile, ne plus passer du temps sur des sanctions stupides, ne plus passer du temps à gérer des conflits et utiliser ce temps de façon extrêmement positive à essayer justement de créer de nouvelles conditions pour rendre un maximum de personnes heureuses.
Ouais. Je vais passer la parole à nos invités au téléphone, Xavier Cambi et Marlène Schiappa. Vous, si vous aviez deux conseils primordiaux à donner aux salariés qui nous écoutent, ou en tout cas à ceux qui travaillent, pour réaménager son bonheur au quotidien dans son lieu de travail.
Marlène, voulez-vous commencer?
Marlène Schiappa.
Oui, pourquoi pas. Écoutez, la première chose, c'est vraiment, je pense, j'évoquais tout à l'heure, se concentrer sur ses besoins. Nous, dans le livre « J'arrête de m'épuiser », on a mis à la fin une petite batterie cartonnée à découper et à colorier, parce qu'on a réalisé qu'en fait, tout simplement, beaucoup de gens qui travaillent ne se rendent pas compte de l'état d'épuisement dans lequel ils sont. Ils s'agitent, ils en font de plus en plus, et ils réalisent en épuisement ou en burn-out une fois qu'il est trop tard et que l'épuisement est déjà installé, que le mécanisme est là. Donc on leur propose de se poser la question simplement à la fin d'une journée, de se dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui mes besoins ont été respectés? Est-ce que je les ai écoutés?
Ça, de s'écouter davantage.
Exactement, s'écouter davantage et vraiment faire attention à l'environnement dans lequel on est. Mais on parlait beaucoup là de bonheur, d'entreprise qui mène au bonheur, etc. Mais il est vrai que le but de l'entreprise, le but premier, ce n'est pas, et malheureusement on le déplore, mais ce n'est pas de rendre ses salariés heureux. Donc c'est vraiment à chaque personne qui travaille d'arriver à prendre le meilleur des cadres de la convention collective, mais aussi des syndicats, du dialogue social, etc., du comité d'entreprise, pour arriver à quelque chose qui va lui correspondre à lui. Un des témoignages qu'on a eu tout à l'heure était très intéressant. Je trouvais de la femme qui était dans une école de travaux ménagers, de couture, etc. Je pense que essayer de rapprocher le plus possible ce que l'on fait de son idéal, Ça me paraît très intéressant. Et Laurence posait des questions tout à l'heure qui me paraissent très pertinentes. On peut très bien se dire, quand on se demande si on a répondu à ses besoins, si on n'est pas trop épuisé, vidé, etc., se dire, voilà, où est-ce que je veux aller? Quel est pour moi mon métier idéal, ma carrière idéale qui me rendrait heureux? Le travail qui me rendrait heureux? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quelle est la différence entre les deux? Et comment je peux faire en sorte que mon travail actuel soit le plus proche possible du travail idéal qui vraiment me rendrait heureux?
Alors, si vous le voulez bien, je voudrais qu'on prenne un dernier témoignage, un voisin qui nous appelle de région parisienne, Mauriac, dirigeant d'entreprise. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, je suis Mauriac, effectivement. Je voulais vous parler juste de mon cas.
Oui.
Donc, moi, j'ai une trentaine de salariés. J'ai créé mon entreprise depuis 11 ans maintenant. Ça se passe très bien. J'ai un bon chiffre d'affaires.
C'est donc, une entreprise de quoi?
De conseil en informatique. Voilà, donc moi j'attache une grande importance au bonheur au travail et pour mes collaborateurs, mais également pour moi-même, puisque c'est un peu l'objectif d'une création. La personne qui vient juste de parler avant vous disait justement que c'était quand même si on ne crée pas son entreprise pour le bonheur de ses collaborateurs, moi je dirais c'est aussi quand même pour son bonheur à soi, déjà pour celui qui crée. Alors le problème, c'est que quand on met en place des cadres intéressants, enfin en tout cas qu'on trouve intéressants pour que les collaborateurs puissent profiter, puissent évoluer, puissent être heureux, nous, par exemple, chez nous, c'est deux moments importants pendant l'année, donc pour tous les collaborateurs, des anniversaires chaque mois, un cadre bien, etc.
Oui, vous fêtez tous les anniversaires dans votre entreprise.
Tous les anniversaires sont fêtés. Donc chaque mois, on se retrouve autour de Pau. Ça se passe super bien. Le problème, c'est où en est-il le dirigeant lui-même qui a créé son entreprise? Parce que il souhaite avoir une pérennité dans cette, on va dire, dans ces moments récurrents de partage avec ses collaborateurs. Lorsqu'il y a des charges qui tombent tous les jours, des services URSSAF qui ne comprennent pas la réalité de l'entreprise.
Bien sûr, mais malgré ça, c'est rare d'entendre un patron de PME comme ça en France parler de son bonheur au travail. C'est assez formidable. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Mauriac, qu'on arrive à la fin de cette émission. Et merci à tous nos invités. Marlène Schiappa, J'arrête de m'épuiser, c'est publié aux éditions Erol. Xavier Cambi, vous avez publié 48 clés pour un management durable aux éditions Yves Brion, éditeur. Laurence Vanet, Happy RH aux éditions La Charte. Voilà, il y a une bibliothèque entière pour être heureux au travail. Tellement de livres sont publiés chaque année sur le sujet. Merci à vous, les voisins et les voisines. C'est vous qui faites l'émission, vous le savez, du lundi au vendredi pour notre plus grand bonheur. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Jonas Malé-Solars, Romain Dubrac, Didier Cherouse. Et demain, 7 milliards de voisins, qu'est-ce qu'un bon parent? Voilà, vous pouvez nous appeler d'ici là et réagir sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous. À demain.